diffusion.
Religion du monde, Geneviève Delru. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette rediffusion d'été, nous allons réentendre l'historien Pierre-Olivier Léchaud à propos de son livre sur Luther et Mahomet, qui est une lecture protestante entre le XVIe et le XVIIIe siècle de la religion musulmane. Autrement dit, comment Luther, puis Calvin, les fondateurs de la réforme protestante et du protestantisme, puis leurs successeurs, ont regardé l'islam et son prophète. Puis nous irons à la rencontre d'un autre Luther, celui-là au sein de la religion musulmane du XXe siècle. En tout cas, c'est le surnom qui fut donné à Muhammad Charour parce qu'il voulait lui aussi une réforme en profondeur basée sur une autre lecture du Coran. Cet islamologue, exégète, ingénieur syrien, mort à Abu Dhabi en 2019 à l'âge de 81 ans, a consacré sa vie à cette recherche, reposant sur l'analyse de la langue arabe du 7e siècle. Il a qualifié de non-scientifique l'exégèse coranique traditionnelle, suscitant des controverses, notamment avec des professeurs de l'université sunnite d'Al-Azhar. Muhammad Charour a publié plusieurs ouvrages, le dernier intitulé « Pour un islam humaniste, une lecture contemporaine du Coran » est publié aux éditions du CERF. Il a été traduit par Makram Abbès, professeur des universités à l'École normale supérieure de Lyon. Il sera notre invité dans la deuxième partie de cette émission. C'est une page d'histoire peu étudiée que nous allons parcourir avec Pierre-Olivier Léchaud, théologien et professeur d'histoire moderne à l'Institut protestant de théologie de Paris, dont il a été le doyen. Spécialiste de la Réforme et de la période des Lumières, son dernier ouvrage « Luther et Mahomet », publié aux éditions du CERF, porte sur le protestantisme occidental face à l'islam du XVIe au XVIIIe siècle. Pierre-Olivier Léchaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, Luther et Mahomet, une mise en miroir inattendue, donc entre le moine allemand qui en 1517, avec ses 95 thèses contre la papauté, déclenche la réforme et ouvre la voie du protestantisme, et le prophète Mahomet, fondateur de la religion musulmane, mort à Médine en 632, alors que l'islam a déjà amorcé sa longue conquête territoriale. Il s'agit au premier abord d'un pas de côté dans l'histoire des religions monothéistes et leur face-à-face, mais au fil de ces pages savantes, eh bien, cette lecture protestante de la religion musulmane du XVIe au XVIIIe siècle s'avère non seulement passionnante, mais justifiée, car il y a en effet une lecture spécifique, on le voit, de l'islam de la part des réformateurs, qu'ils soient héritiers de Calvin ou de Luther. Pierre-Olivier Léchaud.
Oui, absolument. Cette lecture spécifique, elle est liée en fait à un contexte qui est celui du XVIe siècle. C'est une époque où l'Europe occidentale est menacée par l'Empire ottoman, l'Empire turc, qui progresse, qui va jusqu'aux portes de Vienne.
En 1529.
En 1529, la capitale des Habsbourg est menacée. Et donc, au fond, il y a une concomitance entre l'émergence de la réforme et cette progression musulmane. Et donc, très vite, les controversistes catholiques qui s'attaquent aux protestants, aux réformateurs, vont dire c'est pas un hasard. Et par conséquent, les protestants sont sommés de répondre et ils vont s'intéresser très vite à cette réalité qui est l'islam.
Alors, Pierre-Olivier Léchaud, vous évoquiez il y a quelques instants, effectivement, la peur du Turc, la peur des armées ottomanes. Mais il faut également préciser que l'Europe chrétienne, elle est fragilisée dans ses fondements.
Oui, elle a été traversée par toute une série de crises, des crises sanitaires, des crises sociales, des crises politiques, et l'institution qui a toujours fait tenir l'Europe, à savoir l'Église, hein, l'Église chrétienne d'Occident, eh bien
ce
qui est le pilier, qui est uniformisateur, etc. Eh bien cette institution-là, elle est en crise au début du XVIe siècle, d'où la réforme. Et donc la menace de l'extérieur du christianisme, l'islam conquérant des Turcs, eh bien vient au fond faire écho à une crise intérieure qui va déboucher sur l'explosion de cette unité chrétienne qui jusque-là tenait bon an mal an.
Alors pour avoir une carte plus précise, je dirais, de l'Europe à ce moment-là, du côté de l'Espagne, 1492, c'est la chute de Grenade, donc c'est le début de la Reconquista quand même par les rois chrétiens. Mais oui, c'est une Reconquista qui va prendre effectivement des décennies et des décennies.
Oui, elle a pris beaucoup de temps, hein, ça fait plusieurs siècles qu'elle est en route. Elle est effectivement réalisée à la fin du 15e siècle, mais même l'Espagne n'est pas sans difficulté, parce que les rois espagnols sont face à des crypto-musulmans qui sont ce qu'on appelle les conversos. Ils sont convertis officiellement au catholicisme, mais on sait qu'ils pratiquent encore pour beaucoup d'entre eux. Et donc, à l'époque, dire « je suis espagnol », c'est toujours faire peser sur soi une suspicion de crypto-catholicisme, voire aussi de crypto-judaïsme. Donc, il n'y a aucun pays, si vous voulez, qui est vraiment, peut-être dans le nord de l'Europe, mais sinon, aucun pays de l'Europe qui est spécialement épargné par cette réalité, cette double crise extérieure et intérieure.
Alors Luther, donc en 1517, déclare en quelque sorte la guerre à la papauté. Comment va-t-il réagir face à l'islam, puisqu'en réalité, bon, comme vous le disiez, ceux qui vont s'en prendre à Luther, eh bien, utilisent en quelque sorte l'islam.
Oui, alors la lecture de Luther, elle est finalement à la fois très neuve et très conservatrice. Il y a des éléments chez lui qui viennent du Moyen-Âge, en particulier sa lecture apocalyptique, c'est-à-dire que lui, il voit dans la progression des Turcs un signe de la fin des temps. C'est les Turcs, pour lui, le bras vengeur de Dieu, qui punit la chrétienté.
Qui est corrompu
et donc qui mérite un châtiment exemplaire pour la redresser et la préparer à la fin des temps. Et en même temps, il y a une autre tradition médiévale qui est présente chez lui, c'est celle qui fait qu'il va s'intéresser au texte de l'islam, c'est-à-dire au Coran. Donc il y a une dimension érudite pour l'époque qui vient aussi du Moyen-Âge. Et il associe ces deux réalités-là, ce qui fait une position assez originale, d'autant que pour lui, il n'y a pas de problème à lire le texte fondateur de l'islam, à savoir le Coran.
Le Coran qui est déjà traduit en latin depuis quand ?
XIe siècle, il a été traduit par Robert de Ketton à la demande de l'abbé de Cluny. Et ça existe, mais ça existe en manuscrit. Il n'y a pas encore d'édition, d'impression. Ça va être un des enjeux, justement, de l'époque de Luther.
C'est-à-dire qu'on a extrêmement peu d'exemplaires.
Il y en a pas mal, quand même, pour un manuscrit. Mais
oui.
Enfin, c'est pas un imprimé. Donc, le faire passer à l'imprimé, c'est faire passer, disons, pas dans le domaine public, mais en tout cas, le mettre à la disposition des érudits, de ceux qui savent lire, ce serait comme aujourd'hui passer du livre à Internet, en quelque sorte.
Alors, est-ce que pour Luther, il s'agit d'une hérésie chrétienne ? Parce que c'est une des thèses à l'époque. On dit l'islam, c'est une hérésie chrétienne.
Oui, tout à fait. C'est une hérésie qui remonte à Jean Damascène, 8e siècle, fin du 7e, début du 8e siècle, donc très proche des origines de l'islam. Et ce père de l'Église, effectivement, consacre un traité aux grandes hérésies de son temps. Et parmi ces hérésies, eh bien, il mentionne l'islam. C'est la dernière qu'il mentionne. Donc, l'idée que l'islam est une hérésie chrétienne, elle est présente à cette époque-là. Luther en a une vision assez peu originale. Pour lui, c'est un mélange de diverses hérésies, mais ça, on le trouve assez facilement à l'époque. Mais il faut bien avoir ça en tête, effectivement, parce que c'est un autre élément qui relie au protestantisme, parce que l'islam, jusque-là, c'était la seule hérésie qui avait réussi, puisqu'elle s'était maintenue. D'habitude, on les extermine et c'est terminé, si vous voulez.
Sur les hérésies, en général.
Voilà, oui, exactement. Or, celle-là, elle a réussi. Et là, tout à coup, on en a une deuxième, c'est le protestantisme, qui est une hérésie qui réussit aux yeux des catholiques, puisqu'elle se maintient, elle ne disparaît pas. Donc là, on a une preuve supplémentaire du fait que le protestantisme, c'est la cinquième colonne de l'islam en Europe. Donc Genève, Wittenberg, même combat que Istanbul, en définitive.
Alors, Luther estimera que la résistance à opposer aux armées turques, ou en tous les cas à opposer à l'islam, Ça n'est pas la lutte armée, mais c'est la résistance spirituelle.
Oui, alors ce que dit Luther, c'est que au fond, il n'y a pas de guerre religieuse. C'est-à-dire on ne peut pas demander aux Européens de se battre contre les Turcs au nom du christianisme. En revanche, on doit les encourager à se battre en tant que citoyens, pour des raisons politiques, puisque le sultan prétend s'approprier des terres qui ne sont pas les siennes, donc ça c'est tout à fait légitime. Mais la seule guerre religieuse possible pour Luther, c'est la guerre spirituelle, c'est celle de la réforme intérieure, bien sûr, mais c'est celle aussi de la prière et du chant. Et il y a tout un travail de Luther pour mettre au point, disons, des chants, des textes, des prières qui pourront être utilisés par ceux, par exemple, qui seraient faits prisonniers par les Turcs. Parce que c'est sa grande angoisse, c'est que cette religion qui finalement peut ressembler quand même au christianisme sous bien des aspects, elles finissent par séduire les gens, puis que les gens finissent par se dire bon, au fond c'est bien la même chose, et se convertissent. Et ça, c'est sa grande angoisse, qui est en plus amplifiée par des récits de gens qui ont vécu, qui se sont convertis, qui sont revenus et qui donc mettent en garde contre cette tentation-là.
Alors, quels sont ceux qui, au siècle de Luther, vont, j'allais dire, prendre fait et cause pour l'islam? Parce qu'il y en a, en tous les cas, qui auront un regard bienveillant, beaucoup plus bienveillant que celui de Luther.
Alors, il n'y a pas vraiment de regard, disons, bienveillant.
Ça sera plus tard.
Oui, l'islamophilie, pour le dire comme ça, c'est plutôt les Lumières. Hein. Mais au XVIe siècle, il y a quand même un personnage qui se démarque des autres, c'est Michel Servet, qui est un protestant d'origine espagnole, ce qui n'est pas sans
qui
lien,
beaucoup de
bien
choses,
sûr,
oui.
Absolument, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, de la situation espagnole, et qui est aussi, c'est sa spécificité, anti-trinitaire.
Hein, anti-trinitaire, donc, alors pour notre auditoire, ça veut dire
Il se dit chrétien, mais il nie le dogme de la Trinité qui a été imposé par les conciles.
Dieu, le Père, le Fils
et le
Saint-Esprit.
Voilà.
Évidemment, les musulmans, c'est un des... grand reproche, si je puis dire, théologique.
Exactement,
hein, fait,
et on a fait pu, d'ailleurs, on a pu montrer que sa théologie, finalement, du Christ, sa christologie, comme on dit en langage technique, elle est assez proche, finalement, de ce qu'on trouve dans le Coran, où il y a toute une pensée aussi sur Jésus. Et donc, ce qui est, à mon avis, très important au sujet de Servet, c'est que c'est pas le premier à dire il faut avoir un regard sympathique, de mission non violente, mais en prêchant l'évangile. Ça, on le trouve déjà au Moyen-Âge. Mais ce qui est frappant chez lui, c'est le fait qu'il dise « nous avons des choses à apprendre de l'islam », en particulier à propos de la Trinité. Et son propos, pour le dire en deux mots, c'est le christianisme avait dégénéré avec tous ses dogmes trinitaires, etc. C'est donc un Mahomet réformateur qu'il décrit, qui s'est opposé à ces dogmes et qui a voulu réformer le christianisme, voyez, réforme. Et donc, par conséquent, comme on est à une époque de réforme, eh bien, il faudrait peut-être que la réforme de Luther s'inspire de la réforme de Mahomet sur ces questions.
Oui, c'est ça. En fait, il y a une forme, j'allais dire, peut-être si le mot est un peu fort, d'instrumentalisation, en quelque sorte, pour défendre ses propres thèses.
Oui, mais avec cette idée, quand même, que les musulmans, ils ont eu raison de quitter ce christianisme corrompu.
Pour Michel Servet. Hein.
Pour Michel Servet. Alors, bien sûr, ils ont tort pour un certain nombre de choses, parce qu'ils judaïsent. Hein. Il est assez critique, par contre, vis-à-vis du judaïsme. Donc ça, il n'est pas totalement ouvert, si vous voulez. Mais c'est le premier qui dit, nous, chrétiens, nous avons peut-être des choses à apprendre des musulmans.
Et malheureusement, Michel Servet, on connaît sa fin terrible
à
Genève. Il sera...
Il a été brûlé.
Il a été brûlé vif.
Voilà, et il a été jugé avant cela. Et le procès est intéressant parce que c'est un des objets sur lequel on l'interroge. Pourquoi tant de sympathie pour les Turcs? Pourquoi vanter le Coran? Est-ce que tu n'es pas un Turc? Là, de nouveau, la suspicion à l'égard de l'Espagnol qui est peut-être un crypto-musulman, etc. Il doit se défendre sur ses origines. Donc là, on voit bien que c'est un aspect qui travaille à ce moment-là aussi du côté des protestants orthodoxes, disons-le comme ça.
Oui, alors c'est ça. Ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, on a rapidement évoqué les conversos. C'est-à-dire, en fait, ces musulmans qui s'étaient convertis, entre guillemets, très entre guillemets, au christianisme. Michel Servet est tout à fait sensible, justement, à cette question de la Trinité, car il sait très bien que c'est la Trinité qui coince, j'allais dire,
dans l'islam. Il ne le dit jamais tel quel, du moins à ma connaissance, mais on peut effectivement faire l'hypothèse que sa préoccupation, c'est le fait qu'il y a des gens qui, quoique officiellement convertis, restent musulmans de cœur parce qu'ils résistent à ce dogme de la Trinité.
Bon, alors, pas Michel Servet sans Calvin, hein,
oui.
Bien sûr, malheureusement.
Et inversement.
Calvin, donc l'organisateur, hein, de la réforme, lui, alors, bon, La question théologique semble pas tellement l'intéresser, cette interrogation théologique par rapport à l'islam, non ?
Oui, c'est assez étonnant d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il est très préoccupé de l'aspect conquérant de l'islam, donc la progression des Turcs.
Territorial, hein, c'est ça. Parce qu'il faut dire qu'il est contemporain de Soliman le Magnifique.
Hein. Ah, très exactement. Hein, oui, c'est à peu près la même période, le même âge, etc. Ce qui marque quand on regarde la correspondance de Calvin, c'est que ça fourmille de références à la situation géostratégique, disons. Hein, et on voit bien que c'est un penseur qui tient compte de la situation politique, militaire, etc. Mais quand on regarde ses œuvres théologiques, il n'y a pas du tout le poids qu'on retrouve chez Luther. Et un autre élément qui est très intéressant, c'est que Luther va militer pour qu'on édite le Coran à Bâle en 1543, première édition du Coran par des protestants. Et Calvin, lui, va être sollicité pour soutenir cette publication, et puis il ne bouge pas.
Ça ne l'intéresse pas.
Ça ne l'intéresse pas vraiment. Ou alors, pour illustrer une idée théologique, un dogme, voilà, la prédestination, par exemple, il l'approuve en faisant référence à l'islam, mais sans avoir même vraisemblablement lu le Coran, alors que Luther le travaille réellement.
Alors, Pierre-Olivier Leschaud, on va passer au XVIIe siècle, qui est un siècle tout à fait différent, effectivement. On ne regarde plus du tout l'islam de la même façon. Alors, est-ce que c'est parce que les conquêtes turques régressent ?
Oui, alors il faut pas imaginer qu'il y a un basculement immédiat. Oui. Hein, c'est plutôt une époque de transition, mais c'est une époque où il se joue des choses absolument fondamentales. Effectivement, il y a un stop dans la progression des Turcs en Europe, encore que ils assiègent encore Vienne une nouvelle fois à la fin du XVIIe.
Mais ça s'essouffle un peu.
D'autre part, il y a du côté des protestants une situation spécifique qui fait qu'ils vont s'ouvrir un peu aux pays musulmans. C'est que eux étant protestants, non pas l'interdiction qu'a posée la papauté de faire du commerce avec les pays musulmans, que seule en gros la France transgresse avec les échelles du Levant, mais ça c'est un autre sujet, mais autrement, ceux qui vont commencer à nouer des alliances avec le sultan du Maroc, avec le sultan ottoman, qui vont ouvrir des comptoirs au Maghreb ou Orient, là c'est le négoce, ce sont les Anglais et les Hollandais, donc deux puissances protestantes, et c'est pas pour rien que c'est dans ces pays que vous retrouvez les premières chaires d'Arabes du monde protestant. C'est-à-dire qu'il y a un lien qu'il faut pas nier entre la dimension commerciale, une politique coloniale qui commence un petit peu, et le développement de l'érudition arabisante.
C'est ça, pour vous, c'est le siècle de l'érudition
absolument
arabisante.
Hein. Absolument, et donc aussi le siècle où s'amorce un décentrement à mains égards, parce que...
Décentrement de, vous voulez dire, du christianisme?
Du christianisme par rapport à lui-même, c'est-à-dire que les protestants, par exemple, vont développer l'idée, qui leur est assez spécifique, qu'il y a cette proximité qu'on connaît entre l'arabe et l'hébreu biblique, et que quand l'hébreu biblique n'est pas clair, on peut aller regarder ce qui se passe en arabe pour éclairer des passages de l'Ancien Testament.
Il y a des ponts, vous voulez dire.
Il y a des ponts, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont plus claires dans d'autres langues sémitiques. Alors à l'époque, le terme sémitique n'existe pas en linguistique, mais on peut aller chercher des termes, des racines, pas seulement en arabe, d'ailleurs aussi en syriaque, etc., pour éclairer des passages de l'Ancien Testament. Par exemple, le Léviathan, cette fameuse créature qu'on trouve dans l'Ancien Testament, jusque-là on disait « bon, c'est une baleine ». Eh bien, il y a des auteurs à cette époque-là qui disent « non, parce qu'en arabe, il y a un mot, laouia, qui veut dire serpenter, donc une baleine, ça serpente pas. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Oh ben, un crocodile. » Et donc, ce genre de choses contribue au fond à transformer le regard sur le texte biblique, parce que c'est plus le texte biblique qu'on lit pour nous, chrétiens, dans notre tradition occidentale, mais on est obligé de recourir à des textes qui viennent d'Orient et donc d'un autre horizon culturel pour les lire. Donc, c'est un moment où il se passe beaucoup de choses qui conduiront ensuite aux Lumières.
Vous appelez cela une révolution galiléenne?
Oui, alors l'expression, elle vient de Gusdorf. C'est-à-dire, c'est, pour lui, c'est le 17e, c'est l'époque où, au fond, l'érudition, la science expérimentale l'emporte sur la métaphysique, sur le raisonnement pur, ce qui est assez paradoxal quand
là,
on pense à Descartes.
Hein.
Mais c'est les Lumières qui se préparent. Et donc, on voit ça aussi en théologie protestante, c'est-à-dire que cette accumulation de textes qu'on va lire de plus en plus, on édite beaucoup de textes en arabe avec traduction, etc. Il faut savoir que cette recherche érudite, elle culmine à la fin du 17e avec la première édition critique du Coran en arabe et en latin, qu'elle fait d'un catholique, mais ça participe quand même du mouvement, eh bien, toute cette érudition, elle va finir par poser tellement de questions que ben, les vieilles frontières vont finir par craquer, au fond, et on va devoir redéfinir la réalité du rapport au religieux, au christianisme, au lien à l'islam, etc.
Et Pierre-Olivier Leschaud, vous insistez aussi pas mal dans votre livre, dans cette partie consacrée au XVIIe siècle, sur le rapport entre le protestantisme et l'islam, sur les liens personnels.
Oui, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que à l'époque, quand vous êtes un érudit arabisant, bon, vous pouvez bien évidemment apprendre l'arabe avec des maîtres européens qui connaissent un peu, mais très vite, comme il n'y a pas vraiment de grande grammaire établie, etc., vous êtes un peu obligé d'aller faire, comme faisaient d'ailleurs les hébraïsants au XVIe siècle, d'aller voir un rabbin, ben, de voir quelqu'un qui parle arabe. Alors, il y a deux options. Soit c'est un chrétien maronite, c'est ce qui se passe beaucoup en France, hein, les professeurs d'arabe au Collège Royal de Paris sont des maronites, donc des catholiques, hein, à l'époque, puisqu'ils sont déjà rattachés à Rome. Mais les protestants, eux, ben, ils vont pas forcément frayer avec des catholiques.
Donc ils vont où est-ce qu'ils
vont? Via les réseaux commerciaux, ils contactent, ils entrent en relation, pas tellement qu'ils contactent, mais ils entrent en relation avec des musulmans. Et c'est des musulmans, ce sont des musulmans qui leur apprennent l'arabe et sur le texte arabe par excellence qui est le Coran. Et ça, c'est une spécificité protestante, c'est-à-dire que les protestants apprennent l'arabe en lisant le Coran, beaucoup plus que les catholiques qui, eux, lisent des textes chrétiens écrits en arabe. Donc, dans le protestantisme, au XVIe siècle, on apprend l'arabe majoritairement avec le texte du Coran.
Toujours pour ces rencontres, vous évoquez, et ça c'est très intéressant, les galériens.
Oui.
Les galériens, et notamment l'expérience de Jean, alors je sais pas si je prononce bien, Marteil.
Jean Marteil, oui. Oui, tout à fait, qui est donc...
Alors c'est galérien d'abord.
Oui.
Vous dites que un galérien sur cinq est musulman. Et en revanche, il y a beaucoup, beaucoup de réformés.
Oui, alors les galériens, bien sûr, c'est une population qui est très diverse, mais parmi eux, bien évidemment, on trouve des protestants et des turcs. Et ce qui est intéressant, c'est que sur ces galères, les protestants et les musulmans sont traités en gros de la même façon.
C'est-à-dire pas bien.
C'est-à-dire pas bien. Jusque dans la tombe, on considère qu'au fond, le protestant, bon, il se dit chrétien, mais enfin, il est aussi infidèle que le musulman. Et donc, on enterre les Turcs et les protestants ensemble. Il y a une seule différence, c'est que les Turcs, eux, lorsque les galères sont au port, à Marseille, Toulon, etc., les Turcs, eux, peuvent descendre. Parce qu'on va les repérer. S'ils essayent de s'éloigner un peu trop, ils parlent pas la langue, ils sont pas habillés de la même façon, etc. Tandis que les protestants qui sont français, ben eux, ils peuvent s'en aller, ils peuvent s'enfuir. Donc, eux, ils n'ont pas le droit de descendre à terre. Et par conséquent, ces protestants, on sait qu'ils vont demander aux Turcs, ou que les Turcs même vont leur proposer, de passer des messages, des lettres, un peu d'argent, dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs. Et Marteil, ben, c'est quelqu'un qui raconte ça beaucoup plus tard, près de 50 ans après sa captivité, et qui explique qu'il n'aurait sans doute pas survécu sans l'aide de ces Turcs, avec lesquels il se lie d'amitié, et qui l'impressionne d'autant plus qu'il l'aide de manière parfaitement gratuite au nom de leur religion. Et on a donc ce passage absolument magnifique où Marteille dit « Mais au fond, ces gens, on les traite de barbares, mais moi, je les ai perçus comme des frères et c'est ceux qui les traitent de barbares qui sont les vrais barbares. » Et donc là aussi, ça participe, cette dimension de la rencontre personnelle, je pense, de ce décentrement. Il faudrait pas avoir dans ce décentrement une réalité purement érudite, même si ça joue un rôle très important, mais c'est aussi le fait de rencontres qui existaient déjà avant, mais qui changent en raison de cette diversité religieuse qui s'installe au sein de l'Europe, si vous voulez.
Mais de toute façon, c'est toujours le cas. Hein. C'est la rencontre interreligieuse. C'est d'abord, on insiste toujours, et notamment islamo-chrétienne, c'est toujours le fait de la rencontre plutôt que les discussions théologiques.
Et oui, c'est premier, absolument, absolument.
Vous écoutez Religion du Monde, notre invité est Pierre-Olivier Léchaud pour son livre « Luther et Mahomet, le protestantisme d'Europe occidentale devant l'islam du XVIe au XVIIIe siècle ». Précisément, on arrive, Pierre-Olivier Léchaud, au XVIIIe siècle, siècle des Lumières. Alors, quelle va être, j'allais dire, la vision protestante de l'islam au XVIIIe siècle?
Oh, elle reste multiple. Elle a toujours été multiple.
Elle le sera plus encore?
Oui, et puis elle se diversifie. C'est-à-dire qu'on voit émerger ce qu'on pourrait appeler l'objectivité d'abord. C'est-à-dire que les érudits du XVIIe dont on a parlé, ils restent marqués par un contexte chrétien, un moule de lecture chrétienne pour ainsi dire. Mais au XVIIIe siècle, on assiste à un réel souci pour l'objectivité. C'est-à-dire qu'on ne va plus lester la lecture de l'islam d'un point de vue théologique positif ou négatif. On le voit très bien dès les années 1710. Là encore, pour des raisons intéressées et instrumentales, parce qu'on est justement vraiment engagé cette fois dans la colonisation de certaines régions, pensant aux Hollandais en Indonésie, hein, territoire musulman, les comptoirs, etc. Et donc, il faut connaître ces gens avec qui on interagit de manière objective pour des raisons évidentes. Hein, et c'est pas du tout de la sympathie. Mais en même temps, cette connaissance objective, elle va conduire à ce que certains penseurs, philosophes, par exemple Pierre Bayle, qui est un penseur protestant, à se poser des questions et finalement à dire « Mais quand on regarde l'histoire de l'islam, on s'aperçoit qu'ils sont parfois, les musulmans, les ottomans par exemple, beaucoup plus tolérants avec les autres religions que nous chrétiens, nous ne sommes envers nos propres minorités. »
Ça, c'est le protestant qui
réagit. Le protestant français persécuté qui réagit en disant cela. Et il a une phrase absolument phénoménale, c'est qu'il dit « L'intolérance musulmane aura fait en 5 siècles moins de victimes que l'intolérance catholique durant la nuit de la Saint-Barthélemy. »
Oui, ça c'est le protestant qui parle.
Bien sûr.
Il fait l'impasse sur les conversions forcées.
Bien sûr. Et aussi sur le fait, bon,
que
ce que les protestants peuvent faire subir aux catholiques là où ils sont majoritaires, en Angleterre par exemple. Ça c'est indéniable. Il le fera plus tard. Hein. Il est, de ce point de vue-là, il est moins confessionnalisé que ce que je disais là peut le laisser penser, parce que lui, il est au fond critique vis-à-vis de toute dimension coercitive en matière de religion. Hein. Et ça, c'est ça qui est central chez lui. C'est un des pères de la liberté de conscience. Il ne faut jamais l'oublier. Mais ça part de son expérience personnelle.
Oui.
Et justement, dans ce combat pour la liberté de conscience, l'islam apparaît comme un exemple ou un contre-exemple du christianisme. Avec le christianisme, dit Bayle, vous avez une religion où le fondateur prêche la paix et l'amour du prochain. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la guerre, on a fait les croisades, on s'entretue nous-mêmes. De l'autre côté, vous avez une religion, l'islam, dit Pierre Bayle, dont le fondateur a dit, vous pouvez tuer les infidèles, il n'y a pas de problème, et qui a fait québécois, eh bien, qui a fini par instaurer la tolérance dans l'Empire ottoman. Qu'est-ce qui est préférable ? Une religion qui trahit ses racines pour faire la guerre ou une religion qui trahit ses racines pour faire la paix ? Eh bien, les musulmans sont plus intéressants que les chrétiens de ce point de vue-là, dit Bayle.
Oui, c'est ça. Ça, c'est la vision du protestant persécuté, j'allais dire. En tous les cas, une vision protestante persécutée.
Oui, oui, mais il dit ça aussi vis-à-vis de lui-même et des autres protestants, en disant, mais vous, les protestants anglais, vous faites pareil.
Donc, il est sévère avec les autres protestants.
Il est aussi sévère avec les protestants, absolument, absolument. Il est très critique vis-à-vis de certains de ses collègues, par exemple pasteurs, théologiens, qui défendent la contrainte en matière religieuse, et il leur dit, d'accord, mais alors si vous tombez sous le coup ou sous l'autorité d'un souverain musulman qui, lui, est majoritaire et qui décide qu'il doit vous contraindre, il ne faudra pas vous plaindre, parce que ce qui vaut ici vaut ailleurs où on n'est pas majoritaire.
Il voit le prophète comment ? Semble-t-il comme un faux prophète, Pierre Bayle ?
Oui, alors Bayle reste tributaire de cette image de Mohamed comme d'un imposteur. Hein. L'imposteur Mohamed, c'est l'image qu'on a beaucoup dans l'Occident chrétien. Mais chez Bayle, cette vision, elle est déthéologisée. C'est-à-dire que ce qui l'intéresse, c'est pas l'imposteur qui fabrique une hérésie et puis qui veut se faire bien voir, c'est l'usage politique de l'imposture religieuse. Et parce qu'il s'interroge, c'est lié à ce qu'on disait tout à l'heure, la question de la tolérance, c'est quelle est la place du religieux dans le politique. C'est la question qu'en philosophie on appelle le théologico-politique. Et de ce point de vue-là, la construction d'une religion dans un but politique, ça l'intéresse parce qu'il est dans la ligne de Machiavel pour lequel la religion, eh bien, elle peut être un prétexte pour modeler une réalité politique.
C'est ça qui est très intéressant d'ailleurs, Pierre-Olivier Leschaux, c'est que ça peut être très contemporain aussi, cette approche et ces craintes.
Ah, absolument, hein, absolument.
Quand on lit votre livre, souvent on se dit, mais oh, ça ressemble beaucoup à ce qui se passe aujourd'hui.
Oui, oui, je dirais que c'est la dimension éthique, morale presque, j'aurais envie de dire,
politique aussi,
bien sûr, oui. de l'histoire. C'est de nous offrir des possibles qui ont déjà existé, mais voilà, de nous inviter à ouvrir des fenêtres sur des mondes ou des réalités qu'on n'aurait pas forcément attendues à cette époque.
Alors, en conclusion, Pierre-Olivier Leschaux, donc sur la lecture protestante de l'islam, que peut-on dire ? Qu'est-ce que cette lecture aura apporté ?
Je pense que ce qui est déterminant dans toute cette histoire, c'est qu'au fond, l'islam, la lecture protestante de l'islam révèle un trouble. C'est-à-dire que l'islam, c'est à la fois l'étranger et le très proche. Et c'est dans ce jeu-là que se révèlent des questions qui aujourd'hui sont des questions que se posent aussi les spécialistes de l'islam. C'est cette grande proximité dans le Coran avec le christianisme, Jésus, Marie, toutes sortes de figures bibliques. Et au fond, eh bien, la lecture de l'histoire du regard protestant sur l'islam, elle nous invite à nous reposer aujourd'hui sur un plan historique, mais aussi plus largement sur un plan sociétal, la question de la proximité entre ces deux religions que sont le christianisme et l'islam.
Est-ce que ça interroge, selon vous aussi, les musulmans ?
Ben, c'est à souhaiter, en tout cas. Il y en a incontestablement avec qui ce dialogue se noue, et c'est quelque chose qui est d'autant plus important au vu de la situation que nous traversons aujourd'hui.
Je vous remercie, Pierre-Olivier Leschaux. Je rappelle le titre de votre livre, Luther et Mahomet, le protestantisme d'Europe occidentale devant l'islam, du XVIe siècle au XVIIIe siècle, et c'est publié aux éditions du Cerf.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Le mois du Ramadan célèbre chez les musulmans la révélation du Coran au prophète Mahomet. Le Coran dont l'islamologue syrien Muhammad Charour propose, dans ce qui restera l'un de ses derniers livres, une lecture radicalement renouvelée. Le titre « Pour un islam humaniste » et le sous-titre « Une lecture contemporaine du Coran » est une somme de près de 450 pages publiée aux éditions du Cerf, qui comprend deux parties, une longue introduction qui occupe un tiers de l'ouvrage, signée par le traducteur du livre Makram programme Abbès et la deuxième partie qui expose la pensée de Mouhammad Charour qui entend proposer une lecture libératrice du Coran. Avec nous en ligne de Lyon, Makram Abbès, bonjour.
Bonjour.
Je précise que vous êtes professeur des universités à l'École normale supérieure de Lyon et que votre domaine de recherche et de prédilection est la philosophie politique arabe. Alors, Mouhammad Charour, cet ingénieur syrien qui pendant 30 ans va se tourner vers l'étude du Coran seul, en délaissant tout ce qui a été produit après par les oulémas et les juristes, qui était cet homme que l'on appelle le Luther de l'islam, Makram Abbès?
Effectivement, comme vous l'avez rappelé, donc Mohamed Charour est ingénieur civil de formation et de métier aussi. Il a enseigné cette discipline à l'université de Damas pendant plusieurs années, avant de se consacrer à l'étude du texte coranique et bien sûr de la pensée religieuse de l'islam. Alors, il y a une petite anecdote qu'il aimait beaucoup raconter lors des conférences qu'il faisait un peu partout dans le monde. Cette anecdote, en fait, elle remonte un événement historique majeur dans le Proche-Orient, à savoir la défaite des armées arabes contre l'armée israélienne, donc lors de la guerre des Six Jours. Et cet événement politique et militaire a été déterminant pour, bien sûr, la conscience de plusieurs Syriens, de plusieurs Égyptiens, et Charour ne fait pas exception, puisque en allant à la mosquée après cette défaite, eh bien, il a entendu dire par l'imam que la défaite était due au fait que les musulmans ou les Syriens n'étaient pas trop attachés à leur religion. Donc, il sort de la mosquée et il discute avec un ami athée. Et là, il lui dit que la principale cause de la défaite, c'était l'attachement excessif à l'islam. Donc voilà, vous avez deux interprétations diamétralement opposées, en fait, du même de la cause, en fait, de cet échec militaire et de cet échec politique. Et donc, c'est ce qui a déterminé Charour a justement à aller interroger les textes religieux et principalement donc le texte coranique afin de puiser en quelque sorte une réponse à ce que ce monde, en fait le monde arabe, le monde musulman, l'islam d'une manière générale traversait comme crise sur tous les plans, crise politique, crise militaire, crise scientifique, technologique, etc., etc.
Et il rappelle d'ailleurs que ce retard considérable accumulé dans le monde musulman, même les armées de Napoléon en Égypte, lors de la campagne, en avaient fait le constat.
Absolument. En fait, l'idée de crise ou bien de retard est vraiment fondamentale dans la pensée arabe contemporaine, c'est-à-dire que vous avez toujours chez la plupart des penseurs et des intellectuels donc une approche qui est fondée un peu sur le rapport à la tradition et la question de la modernisation, comment être authentique et comment aussi trouver le chemin du progrès historique, moral, politique, social, etc. Et donc cette approche de l'islam par le biais d'un constat qui est tout à fait naturel, qui est bien sûr acerbe, qui est regrettable, mais en fait ce sont les réalités, c'est-à-dire toutes les sociétés passent par des moments de crise patiente et aussi de retard ou bien de d'enfermement identitaire, etc., etc. Et donc c'était un peu le cas de ces sociétés et les intellectuels justement comme Charour étaient conscients de la nécessité de dépasser ce moment de crise à travers donc en quelque sorte une entreprise d'autocritique qui est fondamentale et bien sûr la porte de cette autocritique n'était autre que celle de la religion.
Alors, Makram Abbès, il y a des réformateurs bien connus, hein, vous les citez d'ailleurs dans le livre, Marmouta, Abdelmajid Darcharfi, Fazlur Rahman, Sourouche, etc. Bon, qu'est-ce qui distingue Mouhammad Charour de ces réformateurs?
Alors, d'abord, les universitaires, en fait, que vous avez mentionnés, sont des gens qui sont issus des disciplines classiques des sciences humaines et sociales. C'est-à-dire certains sont historiens, d'autres philosophes, sociologues, politistes, etc. Ce n'est pas le cas de Charour, en fait, initialement. Donc ça, c'est la première différence. Et la deuxième différence, c'est que Charour va établir, en fait, un rapport quasiment personnel avec le texte coranique, parce que il va tout faire en autodidacte. Et donc, il va apprendre en fait sur le tas la manière de l'approcher, étudier la littérature qui s'est construite en fait autour de ce texte, et il va dès le départ prendre une position méthodologique et épistémologique qui va donner en fait ses fruits justement au bout de quelques dizaines d'années d'études de ce texte. Cette position consiste en fait à faire table rase de la plupart des savoirs qui se sont greffés sur ce texte. Non seulement pas parce que Shahroun en fait méprise ses savoirs, mais c'est pas tout simplement parce que pendant plusieurs siècles, eh bien, ces dispositifs immenses formés en fait de disciplines comme le droit, comme l'exégèse, comme le hadith, c'est-à-dire les dits du prophète, donc des travaux aussi d'ordre spirituel sur le soufisme, etc. Tout cela, la théologie bien entendu, tout cela, si vous voulez, a été élaboré pendant plusieurs siècles au sein de nombreuses écoles, doctrines, etc. Mais ça a fini par constituer un écran empêchant d'accéder directement au texte. Un peu à la Descartes, si vous voulez, qui fait table rase un peu de la tradition scolastique afin de fonder quelque chose de nouveau, de moderne, justement. Donc, Shahroor assume totalement cette démarche et donc la fait sienne pour approcher le texte.
C'est ça, pour Shahroor, en fait, le commentaire du commentaire du commentaire eh bien, finit par étouffer le message premier, originel.
Absolument, absolument. Nous avons, en fait, si vous voulez, cette démarche dans plusieurs comme ça mouvements de pensée ou à plusieurs moments de l'histoire de la pensée humaine. Vous avez par exemple des philosophes qui vont prendre en charge le commentaire par exemple d'un texte originel cela va le conduire à laisser de côté justement les commentaires des commentaires, donc toute la tradition exégétique. Pourquoi? Parce que cette tradition, même si elle est intéressante, même si elle donne des clés d'interprétation d'un auteur, eh bien parfois elle obscurcit, en fait, elle contribue à obscurcir la pensée originelle. Par exemple, Averroès, qui est l'un des grands noms de la philosophie en islam, justement a adopté cette démarche pour revenir au XIIe siècle, au texte d'Aristote, afin de découvrir justement le véritable sens, donc en chercher un vrai Aristote. Et cela, bien sûr, devait se faire en mettant entre parenthèses la tradition exégétique principalement néoplatonicienne de cet auteur. Vous voyez donc que cette démarche-là, parfois elle est salutaire parce qu'elle permet de renouer avec le sens, avec les enseignements, avec les postulats, avec les problématiques qu'on trouve dans un texte et qui parfois ont été obscurcis par de nombreuses traditions de commentaires à travers les siècles.
Donc on va voir effectivement l'apport que ça a pu donner de prendre le Coran, rien que le Coran. Alors effectivement, ça fait bien penser aux protestants. Et je rappelle donc que Shahroor est appelé le Luther de l'islam, hein, c'est-à-dire les textes, rien que les textes.
Absolument. Alors les textes, et surtout, il y a un autre aspect aussi qui justifie cette comparaison, c'est que Shahroor est en quelque sorte opposé à l'institution religieuse, c'est-à-dire tous les tenants des institutions religieuses traditionnelles comme Al-Azhar, par exemple, au Caire, la fameuse université d'Al-Azhar. Il y a d'ailleurs plusieurs personnalités de cette université qui se sont opposées à Shahroor de son vivant, le taxant d'hérétique, etc., d'apostat. Il y a aussi les clercs autoproclamés de l'islam qui pullulent un peu sur la toile, dans les réseaux sociaux. Il y a aussi, bien sûr, l'expression idéologique de l'islam actuellement en vogue, par exemple dans le cadre de l'islamisme ou bien du salafisme. Eh bien, toutes ces expressions de la pensée religieuse de l'islam, qui sont bien sûr légitimes parce que ce sont des gens qui s'expriment, qui écrivent, qui produisent, etc., eh bien, n'ont pas donné satisfaction, pleine satisfaction en fait à Shahroor, parce que eh bien il perpétue le même rapport au texte, c'est-à-dire un rapport à la fois ultra conservateur, un rapport qui est fondé sur l'étude non pas du texte lui-même, mais un ressassement de toute la littérature qui s'est constituée autour de lui. Et donc cette littérature-là, justement, et c'est ce qui justifie un peu la comparaison avec le protestantisme, cette littérature-là, elle est fondamentalement légaliste. Elle traduit en fait une vision un peu hégémonique de la croyance musulmane par rapport aux autres croyances. Par exemple, elle pose des problèmes, ne serait-ce que théologiques. Par exemple, les premiers juristes de l'islam ont adopté une doctrine qui s'appelle l'abrogation, c'est-à-dire pour décréter que tel verset peut abroger d'autres versets. Ils étaient aussi dans une démarche qui cherchait à établir la loi la plus sévère en ce qui concerne les cultes, en ce qui concerne, disons, la conduite. morale, sociale, politique, etc. Je vous donne un petit exemple à propos du jeûne. Par exemple, vous avez un texte coranique, un verset coranique, c'est le 184 de la sourate 2, qui aborde donc le jeûne en tant que prescription, qui le décrit en tant que prescription, s'imposant bien sûr aux musulmans, mais aussi qui s'est imposé auparavant à d'autres peuples monothéistes. Et en plus, donc après avoir décrit cela comme une prescription, donc tout le jeûne du mois du Ramadan, eh bien, le texte coranique rajoute qu'il est possible de ne pas jeûner, alors qu'on peut le faire, alors qu'on est capable en fait de le faire, mais en contrepartie, il faudrait donc dépenser de son argent, faire de bonnes œuvres, de bonnes actions. Et donc, il y a cette option qui est donnée en fait aux croyants pour pratiquer autre chose à la place du jeûne.
Alors, est-ce que cela veut dire, Makram Abbès, que cette lecture-là du Coran, lecture originelle, eh bien, finalement, peut développer une autonomie du sujet qu'on ne voit pas forcément aujourd'hui ?
Absolument, absolument, tout à fait. En fait, c'est une lecture, justement, qui est moins centrée, alors qu'elle part de la lettre du texte, c'est-à-dire elle s'appuie sur la lettre du texte. Seulement, cette lettre-là n'a pas été respectée par certains juristes de l'époque médiévale parce que ils cherchaient en fait à établir la loi la plus sévère en matière de culte, en matière de rite. Et donc, Charlot justement essaie de redonner au texte la plénitude de tout son sens et cela permet de montrer que le texte lui-même en fait offre des options aux gens. Il est plus souple que le discours des juristes qui parlent en son nom. Voilà.
Dernière question, Makram Abbès. Est-ce que précisément cette autonomie du sujet à laquelle Charour invite, est-ce que c'est cela qui fait dire qu'en quelque sorte qu'il s'agit d'un islam humaniste ?
Absolument, parce que c'est une réflexion religieuse, certes, mais qui est fondée sur l'homme. C'est-à-dire qu'elle se focalise en fait sur l'homme au sein de la société, sur l'homme en tant qu'être politique, en tant que citoyen, et d'abord, bien sûr, en tant que sujet. Et dans cette dimension personnelle, par exemple, il y a certains contenus comme la liberté de conscience que Charour fonde théologiquement en revenant à l'idée qu'il n'y a pas de contrainte en matière de religion, en revenant à l'idée que l'apostasie, par exemple, qui est encore un crime dans certains pays musulmans, qui est même soutenu par les institutions religieuses, eh bien l'apostasie n'a pas à être décrétée justement par les clercs ou par les ulémas ou par les juristes, ou ni non plus par l'État, bien entendu. L'hérésie, en fait, les accusations d'hérésie, etc. Tout cela, si vous voulez, tout le contenu en fait de la liberté de conscience est repris totalement par Charour pour être fondé justement théologiquement. Et cela permet aussi de libérer la sphère de la citoyenneté en montrant que, si vous voulez, l'islam n'est pas du tout incompatible tel que bien sûr il est défini par Charour, n'est pas incompatible avec le fait de vivre dans une société qui n'est pas musulmane, puisque l'islam en fait peut être rejoint non pas par le biais des dogmes ou bien par le biais des cultes, des rites, etc., mais plutôt par l'adhésion aux valeurs humaines. Et donc, du moment qu'on affirme en fait son allégeance aux valeurs humaines universelles, eh bien, on est en quelque sorte musulman, et on peut s'intégrer dans toutes les sociétés. Et donc, cette idée de l'allégeance à l'État qui ne nie pas l'allégeance à l'islam, elle est vraiment fondamentale parce que elle est au cœur de certains débats, aussi bien pour l'islam en France que l'islam en Europe ou bien dans d'autres régions du monde.
Je vous remercie, Makram
merci,
Abbès.
Merci beaucoup à vous.
Je rappelle que vous êtes le traducteur et aussi le contributeur du livre « Pour un islam humaniste, une lecture contemporaine du Coran » et c'est publié aux éditions du CERF dans la collection « Islam, nouvelle approche ». Merci.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de Religion du Monde, présentée par Geneviève Delrue et réalisée par Steven Hesley et Sophie Janin. À dimanche prochain, bonne semaine à tous. L'atelier des médias.